qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. C'est, on comprend très bien les enjeux, c'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Les massacres que les soldats onisiens ont commis contre le peuple haïtien, surtout le peuple des bidonvilles.
Sécurité, ce qui arrive, c'est que ça permet au gouvernement canadien de détenir quelqu'un sans charge, sans accès à la preuve.
On oublie souvent les questions de base qui définissent ce conflit. Ce conflit, c'est avant tout un conflit sur la terre.
Nos garçons nous inquiètent sur la question de l'avortement. Alors, c'est pour ça que je suis ici avec ma fille, la jeune fille, qui est la relève. On continue.
Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de parte de los zapatistas.
De Radio Centre-Ville 102.3 FM. Il est 9h et vous êtes avec l'équipe de En bas à gauche pour une heure d'actualité politique et sociale de Montréal. On va vous parler de la mobilisation Turco. Mobilisation Turco qui organise une manifestation ce samedi dans le cadre de la mobilisation pour un projet alternatif de l'échangeur Turco dans le sud-ouest. On vous en parlera. Également une chronique culturelle et artistique avec Philippe Ducrot des productions Hôtel Motel qui présente la porte du non-retour, un déambulatoire photographique à la Maison de la Culture Frontenac. C'est une entrevue réalisée par Marie-Andrée Parent, chroniqueuse culturelle à CKUT. Également, on vous parlera de la poursuite contre Noir Canada, mais d'une façon un peu différente cette fois-ci, et c'est les 3 ans de la poursuite contre Noir Canada. Alors, restez avec nous. Bonne émission.
Bonjour Valérie.
Salut.
Alors, merci d'être avec nous. On t'a invité aujourd'hui pour nous parler de la campagne de mobilisation Turcotte qui, notamment, nous invite à une manifestation dont on parlera un petit peu plus tard samedi. Est-ce que tu pourrais nous présenter le Papyr et Mobilisation Turcotte?
Donc, le Papyr, c'est un organisme communautaire qui fait la défense de droits des locataires. Donc, c'est un comité logement. On travaille aussi sur la question du logement social. Donc, on fait la promotion du développement du logement social. Puis, on est à Saint-Henri, mais on travaille aussi à Petite-Bourgogne, à Villemar, puis à Côte-Saint-Paul. Donc, c'est pas mal ça, le Papyr. Sinon, Mobilisation Turcot. C'est une mobilisation qui s'est faite avec des citoyens de Saint-Henri, de Villemort-Côte-Saint-Paul, puis des organismes communautaires, quand le ministère des Transports a annoncé qu'il allait reconstruire l'échangeur Turcot. Donc, on s'est mis ensemble parce que le projet qui se présentait était vraiment inacceptable. Notamment, il y a des expropriations, il va y avoir encore plus de circulation routière, donc encore plus de pollution. Donc, ça fait 3 ans qu'on se mobilise pour essayer de changer ce projet-là.
Puis alors, c'est quoi les différents enjeux? Il y a un échangeur trop vieux qui tombe, il y a différents projets, il y a différents enjeux, les enjeux du quartier, les promoteurs. Des fois, ça a été quand même un dossier assez compliqué. Est-ce que tu peux nous résumer un peu les grands traits?
Oui, ben c'est ça. Donc, l'échangeur Turcot, il serait arrivé à sa fin de vie utile, en fait. Donc, il faut le reconstruire. On nous fait peur aussi un peu avec ça, là, qu'il pourrait avoir des morceaux qui tombent, tout ça. Donc, il faut le reconstruire. Puis là, le ministère des Transports, ce qui est proposé comme projet, c'est en fait de refaire à peu près le même échangeur qui avait été fait il y a 50 ans. Mais plus gros, finalement. Donc, il y a 50 ans, il y avait eu des expropriations. Ben, ça prendrait encore des expropriations maintenant. Il va y avoir encore plus de circulation, plus de pollution. De Mobilisation Turcot, il y a un groupe qui est le groupe en recherche urbaine Hochelaga-Maisonneuve qui a proposé une alternative, en fait, qui nécessite aucune expropriation, qui laisse beaucoup de place au transport collectif, donc qui réduit vraiment la taille de l'échangeur, puis qui fait en sorte qu'il y a moins d'auto qui circulent aussi dans le quartier. Donc, le projet présenté par le ministère des Transports, c'est un projet qui vient encore plus enclaver les quartiers du Sud-Ouest. Dans le Sud-Ouest, il y a des voies ferrées, il y a l'échangeur Turcot, donc on est vraiment enclavé. Puis le projet, il va être rabaissé encore plus près du sol. Donc, ça va être encore plus emprisonné, là, donner un effet là, d'emprisonnement pour les gens du quartier. Donc, c'est vraiment ça les enjeux. En fait, nous, ce qu'on pousse, c'est que, étant donné qu'on reconstruit ce projet-là, ça va prendre 10 ans. C'est un projet qui risque d'être là pour les 100 prochaines années. Ben, qu'on le pense avec l'ingénierie d'aujourd'hui, avec ce qu'on connaît aujourd'hui, des impacts vraiment négatifs de la voiture sur la santé. Donc, de penser à tout ça, puis d'offrir plus de transport collectif, de faire un projet qui est vraiment intelligent, là.
Puis ça peut paraître un peu stérile, mais quand même ce genre de dossier-là passe par toutes sortes de consultations, de bureaux, de ci, de ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où ça bloque, où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Donc, il y a un peu plus d'un an, il y a eu les audiences publiques en environnement, avec le bureau d'audience publique en environnement. Où est-ce que les gens avaient pu aller s'exprimer, puis le gros pourcentage des gens, comme 90% des gens, s'opposaient au projet. Puis ensuite, le rapport est sorti. Puis le rapport, il n'a pas été vraiment sévère envers le ministère, mais il a quand même exigé plusieurs choses. Il a renvoyé le ministère faire son travail. Donc là, on avait comme de l'espoir pendant un an qu'on pourrait faire changer le projet puis qu'on avait une espèce de poigne. Quand le ministère est ressorti en novembre dernier avec son supposément projet bonifié, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est la même chose. Les petits gains qu'on a eus, c'est qu'on a réussi à éviter qu'il y ait des expropriations sur la rue Cazelet et des Noyers qui sont dans Saint-Henri. Mais il y a encore beaucoup d'expropriations, notamment le 780 Saint-Rémy là, qui représente le gros bout des expropriations. En plus, pendant un an, quand le ministère des Transports avait été renvoyé à sa table à dessin, la ville de Montréal dénonçait en fait le projet du ministère des Transports, puis il avait proposé lui aussi sa propre alternative. Donc là, on avait en main deux alternatives qui nécessitaient aucune expropriation, qui laissaient encore une fois plus de place au transport collectif. Donc là, on sentait qu'on avait le vent dans les voiles. Malheureusement, il y a un virement d'orientation à la ville. Finalement, le maire a décidé d'approuver le projet du ministère des Transports, puis il a fait une sortie conjointe. Donc, où est-ce que ça bloque? En fait, c'est vraiment le ministère des Transports qui a une façon de penser complètement désuète, qui est ouvert à rien d'autre, parce qu'il considère que si on réduit la capacité routière de l'échangeur, on va causer un chaos économique, là, parce que l'échangeur Turcot, tu sais, c'est la voie où est-ce que tout le transport de marchandises se fait. Donc, pour eux, c'est impossible de réduire la capacité de l'échangeur. Puis où est-ce que ça bloque? Ben maintenant, c'est la ville de Montréal aussi qui a décidé que même s'il y avait vraiment beaucoup de monde, beaucoup de Montréalais, de Montréalaises qui s'opposaient au projet, d'appuyer le projet du ministère des Transports quand même. Donc, vraiment... C'est deux aspects-là là, qui bloquent parce qu'on a quand même beaucoup d'appui à la fois des citoyens, des citoyennes, mais aussi de plusieurs partis politiques. Là. On s'entend, c'est pas les partis qui sont au pouvoir, donc c'est une position peut-être plus aisée pour eux, mais c'est vraiment donc la Ville de Montréal puis le ministère des Transports qui veulent absolument pas changer de projet. Là.
Puis en parlant de mobilisation, il y a eu beaucoup de différentes étapes de mobilisation. Où est-ce que ça en est dans le quartier, à l'extérieur du quartier?
Ben les gens, ils restent mobilisés, mais c'est sûr que c'est une bataille de longue haleine. Là. Ça fait 3 ans qu'il y a des gens impliqués là-dessus, des gens qui sont touchés vraiment, tu sais, dans leur milieu de vie. Là, je veux dire, il y en a que ça fait des années qu'une expropriation leur pend au bout du nez. Donc les gens, ils restent mobilisés. Quand le ministère des Transports est venu présenter le projet à Saint-Henri, il y avait 400 personnes qui sont déplacées, puis toutes les interventions, ils étaient très critique par rapport au projet. À chaque fois qu'on sort dans la rue, il y a beaucoup de monde du quartier qui se mobilise. Ce qui est peut-être un défi, c'est en fait de faire comprendre aux gens qui habitent à Montréal que c'est un projet qui déborde beaucoup du sud-ouest, là, parce que l'échangeur Turcot, c'est gigantesque, là. C'est 300 000 voitures qui circulent là-dessus tous les jours. Donc, ça n'a pas un impact négatif juste sur les gens qui vivent à côté, là. C'est pas juste du pas dans ma cour. C'est vraiment un problème qui déborde largement du sud-ouest. Puis, en fait, c'est pour ça qu'on fait la prochaine manifestation. On sort du quartier pour essayer de mobiliser plus largement les gens contre ce projet-là.
Alors justement, samedi, il y a une marche dont je vous recommande de regarder l'affiche et les stickers qui sont absolument hilarants en plus d'être esthétiques. C'est une marche vintage années 50. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du concept?
Oui, ben en fait, l'idée, c'est de revenir au départ, à quelle époque l'échangeur Turcot a été fait au début. Puis en fait, on critique la vision rétro du ministère des Transports. Donc, l'idée, c'est de... Bon, mode rétro, oui, mais échangeur Turcot rétro, non. C'est de montrer qu'on a tellement de connaissances maintenant, on peut pas jouer la carte de l'innocence, de on le sait pas que ça a des impacts mauvais sur la santé des gens, on sait pas qu'il y a d'autres solutions pour assurer la fluidité de la circulation. Donc c'est un peu ça le principe. Puis donc on part aussi du Diners qui est au coin de la rue Laurier Saint-Denis. Donc ça va être vraiment ça le thème. De faire un clin d'œil, disons, à l'époque où est-ce qu'on trouve que le ministère des Transports se situe encore pour penser un projet aussi rétrograde puis passéiste. Là.
Alors, pour s'informer, pour se mobiliser, rendez-vous samedi, mais aussi sur votre site web mobilisation-turco.info. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais nous partager?
Ben non, en tout cas, on va continuer à se mobiliser tant que ce projet-là sera pas à la hauteur de ce qu'on on peut faire là. Donc on invite vraiment les gens à s'intéresser à cette question-là puis à se mobiliser peu importe où est-ce qu'ils habitent là.
Merci beaucoup Valérie d'avoir été avec nous.
Merci à toi.
Alors, on était avec Valérie du comité logement Popir dans le sud-ouest qui notamment s'implique dans Mobilisation Turco. Alors, c'est une manifestation qui aura lieu samedi. Donc, rendez-vous au métro Laurier à la sortie Saint-Joseph avec la thématique années 50. N'hésitez pas à vous déguiser pour marcher avec cette manifestation. On continue en musique avec un choix de musique thématique, Sofiane.
Les United Steelworkers of Montreal, la toune Place Saint-Henri. Bonne écoute.
1, 2, 3, 4. Unscrew the filter, make sure it's wet. Pull off the cables and check for corrosion. Put out that smoke, don't need no explosion. Fire order, stop steering some foam. Let's reach some life in this pile of ghosts. It's a long walk home and the air is heavy. Won't see my arm hanging out of that Chevy. Got dust clouds off the back of a brain. Texan bags all racked with pain. Small town banks and the wrong campaign. I can't remember last time we played. A stick fall and a freeze. Climb underneath, she's a bit of a squeeze. And as the bells well, they scream louder. Back in the block, check the wire to starter. Shackles in a notch by the plate. Picking that block, don't seal my fate. Take a long pull off my bottle of Bud. Down alone, these knuckles covered the blood. I got dust clouds off the back of my brain. Necks and backs all wrapped with pain. Fall down banks and the wrong man playing. I can't remember last time it rained. 1, 2, 3, 4.
Vous écoutiez les United Steel Workers avec la chanson Place Saint-Henri. Et comme on vous l'annonçait plus tôt, on poursuit avec une chronique culturelle, une chronique qui a été réalisée par Marie-Andrée Parent avec Philippe Ducrot, directeur artistique, auteur et compositeur, qui présente à la Maison de la culture Frontenac du 28 avril au 11 juin l'exposition La porte du non-retour, un déambulatoire photographique.
En bas à gauche, chronique culturelle.
Aujourd'hui, j'accueille Philippe Ducrot. Bonjour.
Bonjour.
Philippe, qui, avec sa compagnie de théâtre production Hôtel Motel, dont il est le directeur artistique, nous présente La porte du non-retour, un déambulatoire photographique, et ce, depuis le 28 avril jusqu'au 11 juin, à la Maison de la culture Frontenac et dans le cadre du FTA Festival Transamérique. Alors d'abord, Philippe, je te présente un petit peu. Auteur, metteur en scène, acteur et maintenant directeur artistique d'Espace Libre, où nous avons pu voir de la toute dernière production L'Affiche, qui parle de l'occupation de la Palestine. On a vu ça l'année dernière. Tu as d'ailleurs reçu le prix de l'Association québécoise des critiques de théâtre. Et j'ai appris que cette production va nous revenir cet automne.
Et oui, en novembre prochain, à Espace Libre encore.
Alors, une très belle idée, une très belle chose, parce qu'effectivement, il y a sûrement des gens qui l'ont manqué. Alors, ils pourront la revoir. Si je parle d'une autre production, je pense à 2025, l'année du serpent, qui était, entre autres, sur l'expérience d'un photographe de guerre. J'ai pensé à celle-ci parce que on voit que tu voyages beaucoup, tu fais de la photographie et ce sont deux intérêts qui t'habitent depuis toujours et qui là vont se conjuguer pour nous donner la porte du non-retour. On sait que tu es un artiste engagé, alors tu utilises tous tes talents et tu vas vraiment nous montrer, nous partager et nous faire réfléchir aussi avec cette porte du non-retour. Alors explique-nous un peu peut-être d'abord le titre, le projet.
La porte du non-retour fait référence à certains monuments qu'il y a sur la côte ouest de l'Afrique. On les retrouve au Sénégal, au Bénin, un peu partout. C'est des monuments qui sont là pour commémorer les esclaves. Donc ceux qui passaient, les Africains qui passaient au travers la porte du non-retour savaient que jamais plus ils pourraient revenir en Afrique. Et au travers ce thème-là de la porte du non-retour, moi ça me permet de parler aussi de certaines migrations en Afrique, que ce soit l'exode urbain, que ce soit l'esclavagisme un peu quand même, que ce soit aussi les réfugiés et les déplacés internes. Je me base sur deux voyages pour parler de ça. Un voyage entre l'Afrique de l'Ouest, donc du Togo, Bénin, Ghana. Ensuite, j'ai pris l'avion en 2008 pour partir de l'Afrique de l'Ouest pour aller jusqu'en Éthiopie, aller dans les camps de réfugiés somaliens, le camp de Kébribaya. Donc, on parle aussi des réfugiés au travers de cette expérience de la porte du non-retour. Et le deuxième voyage a eu lieu en 2010, en septembre dernier, et c'est vers la République démocratique du Congo, de Kinshasa jusqu'à Goma, jusqu'au camp de déplacés internes de Mugunga 3. Donc, la porte du non-retour, à quelque part, c'est un peu un bilan de ma démarche. C'est pour les 10 ans de la compagnie que j'ai initié ce projet-là. Moi, ma compagnie s'appelle L'Hôtel Motel parce que je suis un artiste qui n'a pas d'école de théâtre, qui a décidé d'aller se former sur les routes. Je me suis formé en tant qu'artiste et en tant qu'être humain sur les routes. Mm-hmm. J'ai décidé de réfléchir à cette démarche-là. Quand j'ai écrit l'affiche dont tu parlais tout à l'heure, pour l'écrire, je suis allé 6 fois au Moyen-Orient, donc 3 fois dans les territoires occupés. Mm-hmm. J'étais même là en 2009 quand Gaza était bombardé. J'étais pas à Gaza, naturellement, j'étais juste à la frontière. J'étais allé en Cisjordanie et tout et je voyais les bombes exploser. Donc, cette démarche-là devient bouleversante, devient provocante et ça donne un regard sur le monde qui est très différent et j'avais envie de parler de ça.
D'ailleurs, tu le fais aussi par des écrits. Tu as déjà 2 recueils, je pense, qui parlent un peu de cette démarche-là.
J'ai 2 recueils qui ont été, un qui est publié, un qui est en voie de l'aide. Mm-hmm. Donc, La rupture du jeûne, c'est sur ma première expérience au Moyen-Orient quand je parle de mes 6 voyages. C'est sur le premier de ces voyages-là. C'est entre la Syrie et le Liban. C'est beaucoup sur les réfugiés palestiniens qui sont en Syrie et au Liban. Et Les lanceurs de pierre qui est en voie d'être édité, c'est sur mon premier voyage dans les territoires occupés en Palestine et en Israël. Donc, c'est ça, ce voyage-là, lui en particulier, parle de ce qui se passe en ce moment au Congo depuis la fin de la guerre du Rwanda, du génocide du Rwanda. La guerre a traversé le Congo. Maintenant, la République démocratique du Congo se retrouve à être en conflit. C'est le conflit le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale. On parle de 3 à 4, certains vont jusqu'à dire 5 millions de morts depuis 1994. On parle d'une épidémie de viol. On parle de déplacés internes. Il y a encore actuellement 500 000 personnes qui sont déplacées internes au Congo. Et moi, j'ai voulu aussi leur rendre hommage et donner la parole à ces gens-là.
Et c'est par les photos donc que tu as fait dans ce voyage-là. Ça n'a pas dû être évident toujours de prendre des photos de ces gens-là, de ces camps-là. Est-ce que tu étais des fois surveillé? Est-ce que tu as fait ça de façon...
Pour y arriver, moi, je suis allé à Kinshasa. Et de Kinshasa, au travers Oxfam Québec, j'ai réussi à embarquer sur un vol de l'ONU pour me rendre jusque dans la zone de conflit, le Nord Kivu. Et de Goma, au travers l'organisme de l'ONU qui s'occupe des réfugiés, j'ai rencontré le Norwegian Refugee Council qui s'occupe du camp de Mugunga 3, qui est le camp que je suis allé visiter. Une fois arrivé à Mugunga 3, prendre des photos, c'était facile. Mm-hmm. Parce que j'étais là pour ça. Les gens comprenaient qu'est-ce que je venais faire. Les femmes sont venues me témoigner, les hommes aussi, mais particulièrement les femmes victimes de ces violences sexuelles-là. C'était facile une fois arrivé sur place. Mais la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est extrêmement dépourvu. Kinshasa est une ville qui est extrêmement violente, extrêmement pauvre. Il y a 13 millions d'habitants. La police est très agressive là-bas. Et donc, prendre des photos à l'extérieur de la zone de conflit, même à Goma, à l'extérieur du camp, ça, c'était plus compliqué. Mm-hmm. Et souvent, ça m'est arrivé, je pense, au moins 10 fois que les policiers essaient de m'extorquer de l'argent. Là. Et c'est le voyage que j'ai trouvé le plus difficile pour prendre des photos. Parallèlement à ça, la démarche elle-même de faire des carnets, de réfléchir à ça, est particulièrement importante dans la porte du non-retour. Parce que là-dedans, je fais aussi le bilan sur l'ensemble de mes voyages, contrairement à mes 2 recueils.
Mais pourquoi justement décider d'en faire une exposition avec audioguide, donc où on entend tes textes avec 2 voix, plutôt que d'en faire une pièce de théâtre comme avec l'affiche, où on avait aussi une exposition de photos?
Mais pour moi, c'est un choix de mise en scène. Pour moi, ça reste une pièce de théâtre. C'est toujours ça très rigolo. Les gens ont vraiment besoin de mettre les choses dans des petites boîtes. Pour moi, c'est vraiment une exposition de théâtre. C'est une pièce de théâtre, une exposition de théâtre. Mm-hmm. C'est très drôle. Mais donc, une exposition de théâtre et une exposition de photos, les deux sont un par-dessus l'autre.
Oui.
Et moi, ce que je voulais, par ma mise en scène, je voulais donner l'effet que j'ai, moi, quand je voyage. Donc, cet effet-là d'être seul face à ces gens-là, à ces réalités-là, et l'impact aussi. Je voulais aussi que les spectateurs aient la scène non pas devant eux, mais à l'intérieur d'eux. Donc, ces textes-là sont chuchotés à l'oreille des spectateurs, comme si c'était eux qui les pensaient à quelque part. Et ensuite, ils ont les plages, il y a une 20aine de plages. plages et les spectateurs lui-même changent ses propres plages. Donc il y a tout un sentiment de responsabilité qui est important là-dedans parce que un des thèmes de la porte du non-retour aussi, c'est la responsabilité canadienne dans ce conflit-là. Étant donné que les conflits en RDC sont directement reliés à l'industrie minière et que l'industrie minière a son cœur, c'est le Canada. La bourse de Toronto, c'est la bourse minière à travers le monde. Donc je voulais parler de responsabilité. Quand je parlais de l'affiche, les gens me demandaient pourquoi je me sentais responsable. En parlant directement de la RDC, ça me permet d'expliquer le lien de responsabilité qu'on a face à ce qui se passe à travers le monde. Au Canada, il y a des lois qui interdisent toute recherche et toute poursuite aux compagnies minières pour ce qu'elles font à l'extérieur du pays. Donc, c'est ce qui leur permet, à quelque part, de financer des groupes rebelles et des trucs de cet ordre-là. Est-ce que c'est vrai qu'ils les financent ou pas? On ne sait pas. On ne peut pas aller voir. On n'a pas le droit d'aller voir actuellement d'après les lois. Et quand je suis revenu, ils ont voulu changer ces lois-là. Il y a un libéral qui a déposé une motion en chambre pour changer ces lois-là. Mais ça a été refusé. Le gouvernement Harper a refusé. On n'est pas étonné. Et donc, c'est de ces lois-là aussi que je voulais parler. Je voulais parler de mon sentiment de responsabilité face à ces gens-là, à ces morts-là, à ces femmes violées-là.
Alors, il y a d'une part les immenses photos, l'audioguide avec les voix et aussi des textes qui nous donnent cette information-là dont tu parles et que moi, je découvrais totalement. C'est des choses qu'on n'entend jamais parler, bien sûr, parce que on a honte, hein, finalement.
Mais je ne pense pas que c'est par rapport à la honte. Je pense que c'est aussi, je pense que c'est complexe. Et puis, je pense qu'en ce moment, l'information est désagrégée. On est tellement surbombardé d'informations, on peut tellement filtrer, on se met à douter de tout. Mais un livre comme Noir Canada d'Éco-Société parle directement de cet impact-là. Donc, au travers de ça, moi, ce que je voulais, c'était parler de ce séjour-là, de cet homme-là qui, lui, est dans un transport en commun. Donc, c'est la métaphore de la migration. Pour en arriver à aller de cette femme-là qu'il laisse en Amérique jusqu'aux femmes dans le camp de Mugunga 3 en République démocratique du Congo.
Et c'est vraiment quelque chose de très émouvant, de très intéressant. Et j'aurais aimé parler de la phrase où tu dis un jour, j'ai l'impression que je ne reviendrai pas, mais je pense que je vais laisser les auditeurs dessus. En tout cas, moi, j'espère que tu vas nous revenir. Alors, effectivement, à la Maison de la Culture Frontenac, la porte du non-retour, qui est beaucoup plus qu'une exposition telle qu'annoncée dans le cahier du FTA, dans le cadre de ce festival. Merci beaucoup, Philippe Ducron.
Merci à toi.
Ma culture, ma passion, ma raison de vivre, mes origines, ma fierté, ma zone grise. Faut pas oublier que je viens d'Abitibi sur une terre algonquine. On m'a appris la vie avec mes joies et mes peines, ma rage, ma haine, tout ce qu'a joué contre moi-même, devenu la cause de mes problèmes et la crise d'Oka. Rien à voir avec mon corps, mais je vais me battre jusqu'au bout pour défendre mon droit. Je veux suivre la voie de mes ancêtres, être la voie de mon peuple. Une langue en voie d'extinction, je veux rebâtir la nation, car je représente ma nation, bref, ma génération, mon peuple, mes ancêtres. Y'a pas mille façons d'être. Je suis ce que je suis, puis je suis fier de l'être. Et je suis le premier de ce monde à apprendre à me connaître. Jugé par nos paroles, j'ai pas choisi les paraboles.
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Centre-Ville avec l'équipe En bas à gauche. On poursuit cette deuxième partie d'émission en vous parlant de Noir Canada, qui le livre qui fête ce soir ses 3 ans de lutte judiciaire. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Barry Gold poursuit les éditions Éco-Société pour 6 millions de dollars, et non seulement les éditions Éco-Société, mais également les 3 auteurs du livre Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique, soit Alain Deneau, Delphine Abadi et William Sacher. Il y a également une autre poursuite qui a été intentée cette fois en Ontario devant la Cour supérieure de l'Ontario par Banro Corporation, celle-là pour 5 millions de dollars. Blandine, pourquoi ces poursuites en diffamation contre les auteurs de Noir Canada? De quoi parle ce livre qui dérange tellement les entreprises?
Ben, en fait, c'est une bonne question. Pourquoi dérange-t-il tellement? Puisque comme s'en défendent les auteurs, en fait, les auteurs n'ont pas nécessairement fait eux-mêmes une recherche terrain. Ils ont compilé des rapports déjà existants. Ils ont compilé des données telles que des rapports de l'ONU et autres documents pour mettre ensemble et ainsi permettre de faire le portrait du travail des compagnies minières, notamment en Afrique.
Des compagnies canadiennes.
Des compagnies canadiennes. Donc, en regardant les informations sur des massacres, les accusations, les différentes choses qui existaient déjà comme matériel, ils ont fait le travail de compiler pour rendre visible. Et c'est en fait ça qui est attaqué. C'est le fait de compiler une information. On les accuse pas d'avoir menti, d'avoir inventé. On les accuse d'avoir compilé une information, de l'avoir rendue visible et d'avoir porté atteinte à ces entreprises-là. Donc, c'est vraiment des poursuites bâillon pour refuser de dire qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est déjà écrit. Donc, en fait, c'est des le livre passe au travers de différents cas spécifiques où est-ce qu'il montre en fait le mécanisme d'appropriation des ressources à feu et à sang, c'est littéralement le cas de le dire, les degrés de complicité au sein des gouvernements ici et ailleurs pour fermer les yeux et approuver ce type de projet-là.
Tu parlais de loi Bayon. J'ai trouvé une définition générale qui est assez acceptée au niveau des intervenants publics dans le développement au Québec, les gens qui travaillent en action communautaire, et qui définissent une loi Bayon comme étant toute action en justice qui vise à entraver la participation politique et le militantisme. Il s'agit le plus souvent d'une poursuite civile pour raisons diffamatoires, donc c'est le cas de Barnwell Corporation et Barrick Gold contre Noir Canada. Donc, pour raison de toute poursuite civile pour raison diffamatoire intentée contre un individu ou un organisme ayant pris parti dans le cadre d'un enjeu public. Le concept de loi Bayon inclut également les menaces de poursuite, car le succès d'une telle opération ne découle pas tant d'une victoire devant les tribunaux que du processus lui-même visant à intimider la partie défendresse, donc celle attaquée, ou l'épuiser financièrement dans le but de la réduire au silence. Dans le cas de la maison d'édition Éco-Société, qui compte à peu près, je pense, 4 employés, donc une tout petite maison d'édition encore indépendante, ce qui est rare au Québec, une poursuite pour un total de 11 millions de dollars, c'est finalement tuer cette petite maison d'édition, l'acculer à la faillite. Il faut dire qu'il y a tout un mouvement au Québec contre les lois Bayon qui ont gagné en 2009 d'avoir une loi cadre réglementant contre les lois Bayon. Et c'est dans ce cadre-là que, en décembre dernier, les éditions Éco-Société ainsi que, bien sûr, les auteurs de Noir Canada déposaient une requête sur la base des nouvelles dispositions, donc au Code de procédure civile, qui devrait mettre fin aux poursuites Bayon. On va écouter un extrait d'un petit rassemblement qui a eu lieu devant le Palais de justice de Montréal lors du dépôt de la requête par les éditions Éco-Société le 8 décembre 2010. Vous allez entendre Anne-Marie Voissard, porte-parole d'Éco-Société, qui va nous résumer un peu les enjeux de cette poursuite et de la loi anti-Bayon.
Nous avons déjà manifesté à deux reprises devant ce palais de justice depuis 2008 pour réclamer du gouvernement québécois qu'il adopte une législation contre les poursuites Bayon. Cette loi a finalement été adoptée en juin 2009. Aujourd'hui, les éditions Éco-Société et les auteurs de Noir Canada, Alain Deneau, Delphine Abadie, William Saché, déposent une requête sur la base des nouvelles dispositions au Code de procédure civile adoptées l'an dernier pour mettre un frein aux poursuites Bayon. Ils demandent à la Cour supérieure du Québec de déclarer abusive la poursuite en diffamation de Barrick Gold et d'ordonner son rejet. Les tribunaux québécois ont depuis longtemps statué qu'une personne morale n'a pas de sensibilité, d'émotivité, de vie privée, qu'elle ne souffre pas en sa chair ou en son âme et conscience. Et c'est pourquoi ils ont fixé un plafond de l'ordre de 25 000 $ en ce qui a trait à l'octroi de dommages moraux à une société. 25 000 $. Or, Barrick Gold, aujourd'hui, exige de nous 5 millions à titre de dommages moraux et compensatoires et plus d'un million à titre de dommages punitifs. Et de quel dommage parle-t-on? Barrick, à moins d'un avis contraire, n'a jamais allégué avoir souffert d'une perte de clientèle, d'une diminution des ventes ou des occasions d'affaires. Ce que l'on sait toutefois, c'est que Barrick Gold engrangeait encore au dernier trimestre des profits records de l'ordre de 813 millions de dollars US. Le procès pour diffamation intenté par Barrick Gold contre les éditions Éco-Société et les auteurs de Noir Canada doit s'étendre sur 40 jours. 40 jours d'audition entre septembre et décembre 2011. Les auteurs de Noir Canada n'ont tout simplement pas les ressources nécessaires pour assumer les frais qu'exige un tel procès. Les 4 employés de la maison d'édition Éco-Société risquent quant à elles de voir leur travail éditorial sérieusement compromis au cours de la prochaine année en raison de cette assignation en justice. Et ce n'est pas tout. les contribuables québécois seront amenés, eux aussi, à assumer les frais onéreux que suppose un procès aussi lourd. Le juge en chef adjoint à la Cour supérieure du Québec estime qu'il en coûte au Trésor public environ 10 000 $ par jour d'audience. Donc, pour 40 jours de procès, ce sont donc 400 000 $ qui seront puisés dans nos poches de contribuables. Et pendant ce temps, Barrick Gold continuera de profiter des déductions fiscales qui sont accordées aux personnes morales relativement à leurs dépenses juridiques. C'est pourquoi nous déposons aujourd'hui cette requête, c'est pourquoi nous espérons qu'elle sera entendue dans les plus brefs délais. Mes amis, vous êtes sans doute fort préoccupés, tout comme nous le sommes, de ce que des entreprises, des institutions publiques ou des personnalités politiques dont les activités sont forcément de nature à influencer la vie sociale cherchent ainsi à s'arroger le droit de faire taire les critiques qui leur sont adressées. La protection de la réputation ne saurait justifier plus longtemps que l'on impose le bâillon à des éditeurs, à des auteurs, que l'on mette en péril les conditions d'exercice du débat public. Chacun devrait se voir reconnaître le droit de participer pleinement aux affaires publiques, sans intimidation, sans crainte de représailles judiciaires. Et cela devient d'autant plus vrai si, comme dans le cas présent, il y a lieu de croire que les droits sociaux ou économiques, la vie, la santé ou la dignité des peuples puissent être menacés. Les poursuites telles que celles qui sont intentées contre les auteurs et l'éditeur de Noir Canada menacent de priver les citoyens de débats cruciaux pour la démocratie. Et pire encore, il y a lieu de redouter que par crainte de représailles judiciaires sévères, de plus en plus d'intellectuels, d'auteurs, d'universitaires tombent sous la coupe de l'autocensure, évitent la diffusion de résultats de recherche, que de plus en plus d'éditeurs hésitent à publier des ouvrages critiques et passent sous silence des questions d'intérêt public. De pareils dispositifs de censure ne sauraient être tolérés si l'on tient un tant soit peu dans notre société à la liberté de penser critique, sans entrave, sans intimidation, contre toute forme de pensée unique. Merci.
Dans l'ombre des puissances, longtemps de peuple subissait une misance. La permanence du colonialisme cause des souffrances. À une goutte d'essence, coûte toujours une goutte de sang. Tant de masses désignées pour subir nos noirs desseins. Il est temps que l'homme blanc dessoule, calmer son zèle. On voit comme Icare en train de se brûler les ailes. Il a déjà brûlé les îles, volé le poudre et le sel. Sali la terre d'ébène, du ciel jusqu'au sol. Visage pâle, c'est cru pourvoyeur de progrès. Il le revendique, ce qu'il a fait de bon gré. Le fait encore, prend l'Afrique pour laboratoire. Croit guérir ses malheurs en propos incantatoires. Fait le deuil, j'ai eu dans le fond de l'œil de mes pères la raison de ces écueils. Racisme subsiste, vous savez déjà, ce n'est pas négligence, je suis pas dégagé de ce putain de constat.
Serrez la main, il me semble.
Eh bien, il est couché!
Troisième millénaire, nous en sommes toujours aux mêmes scènes. Je vois des soldats blancs buter des indigènes. Massacre manifestant dans les rues d'Abidjan. À peine sorti du Rwanda, la voilà en Côte d'Ivoire. Faisant fi de tous les scandales gravés dans nos mémoires. Ils propagent la mort, nous donnent tous les torts. Que des peuples innocents qui payent toujours de leur sang. La folie meurtrière de ces seigneurs de la guerre. J'en ai marre de payer, nous voulons maintenant manger. Voilà, justice. On te demande de préjudice. Voilà justice. Je veux qu'on me donne un indice. Voilà justice. On te demande de préjudice. Voilà justice. Y'a comme que de vice. Voilà justice. Ouais. Les résistants de la France étaient-ils des terroristes? Pourquoi appeler les terroristes de ce qui résiste? Où sont les héros? Et où sont les fachos? On a vu de A à Z
les sabotages. Les médias français étouffent les massacres qu'il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la désamorcer. Tous les coups d'État financés par l'Occident font énormément de morts pour le pouvoir et l'argent. Les présidents mal intentionnés commettent des crimes imposés par Babylone, système et leur combine. Pour avoir les mêmes mises sur les richesses, ils oppriment. Les familles entières assassinées, ça me déprime. Si t'es témoin et que tu dénonces, ils te suppriment. Beaucoup trop de nos frères sont devenus des victimes des camouflages. Babylone veut étouffer les massacres. Il y
dénoncé, ils font la démocratie. J'ai dénoncé, ils ont voulu me liquider dans la rue, attaqué par des militaires armés. De nos jours, les droits de l'homme ne sont même pas appliqués. Les hommes des milices aiment la terreur dans tous les quartiers.
Alors, c'était la compile « Décolonisons ». Vous avez entendu seulement certains extraits de chansons. C'est un projet qui a été mené par l'association Survie. Donc, on passe des fois des entrevues qui est réalisée par l'association Survie, une association française qui lutte avec ses alliés africains pour une réelle décolonisation de l'Afrique. Donc, ils ont produit pour s'autofinancer deux compiles musicales appelées « Décolonisons ». Vous pouvez les écouter en ligne ou les commander sur le site Africa Wants to Be Free. Ou vous tapez simplement « Compile décolonisons » dans Google et vous allez retrouver l'intégralité de ces chansons. Juste avant, on écoutait un court extrait d'un discours prononcé par Anne-Marie Voissard, la porte-parole d'Éco-Société devant le palais de justice de Montréal, concernant la requête qui a été déposée par les éditions Éco-Société dans le cadre de la nouvelle loi anti-loi Bayon du gouvernement du Québec. Les éditions Éco-Société, les auteurs Noir Canada n'ont toujours pas reçu de réponse et le procès contre intenté par Barrick Gold pour diffamation pour 6 millions de dollars contre les auteurs de Noir Canada et d'Éco-Société aura lieu de septembre à décembre l'année prochaine. Peut-être mentionner, Blandine, que ce sont pas les seuls à être poursuivis par des entreprises minières. Récemment, il y a eu un autre cas.
Donc, il y a un autre cas récemment qui est une personne de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, Hugo Lapointe, qui a en fait simplement écrit un article au mois de décembre dernier dans Le Soleil, où est-ce qu'il comparait le fait que des entreprises comme Petrolia, des entreprises pétrolières en fait en général, aient le droit au Québec d'exploiter au stade exploratoire, quand ils trouvent un gisement, ils peuvent sortir du pétrole et le vendre sans aucune redevance à payer au gouvernement parce que c'est la phase exploratoire. Donc, il a fait une métaphore entre ce fait qu'une compagnie peut prendre des ressources naturelles sans donner une scène au gouvernement, comme du vol. Donc, l'analogie du vol est considérée comme diffamatoire par Petrolia, qui engage donc une poursuite contre Hugo Lapointe et le journal Le Soleil pour 350 000 dollars. Puis, il y en a eu, en fait, beaucoup d'autres qui ont eu lieu là, par le passé. Et ce qu'il faut rappeler de ces poursuites-là, c'est que leur intérêt n'est pas tellement leur gain. Généralement, ils perdent, parce que généralement, c'est des arguments farfelus. C'est juste que, comme il était soulevé tantôt, c'est le simple fait de poursuivre qui constitue le bâillon et qui constitue la punition, puisque toutes les ressources d'un petit groupe qui se mobilise contre une mine dans le jardin du voisin ou quoi que ce soit, se trouvent à mobiliser toutes ses énergies pour trouver des dizaines de milliers de dollars pour des avocats, pour faire une campagne, pour tout ça. Donc c'est le fait de poursuivre, puisque ces compagnies-là savent très bien qu'elles vont pas gagner, puisque généralement, c'est à peu près n'importe quoi les types d'accusations qui sont faites. Fait qu'ils ont des avocats dont la job est vraiment juste de paralyser des mouvements sociaux avec ce genre de poursuites-là.
Et comme le racontait Anne-Marie Voissard, dans le cas de la poursuite de Barrick Gold contre les auteurs Noir Canada, ce sont 40 jours de procès. Donc, on peut s'imaginer également les dépenses encourues par des gens qui peuvent pas travailler, peuvent pas s'occuper des enfants, etc. Ils doivent être à la cour pendant 40 jours d'affilée. Donc, juste le fait d'assister en cours est en soi un blocage à leurs activités. On vous disait plus tôt que ce soir, les éditions Éco-Société convient à une soirée de réjouissance et de résistance haute en couleurs afin de célébrer le 3e anniversaire de la parution de Noir Canada. Donc, tel qu'ils écrivent dans leur communiqué, à 3 années d'intimidation et d'âpreté judiciaire, nous répondons par la bouche de nos chansons. À l'aube du procès de Barrick Gold Corp pour 6 millions de dollars, les éditions Éco-Société sont fiers de vous convier à cette soirée de réjouissance. Avec toute la verve, la fougue et le mordant qu'on lui connaît, l'auteur-compositeur-interprète Jean-François Lessard viendra enflammer les cœurs, secouer les idées molles et pourfendre la raison de l'argent. Lui qui n'a pas sa langue ni ses idées dans sa poche sera accompagné de 4 musiciens. Donc, vous êtes tous conviés à rencontrer les artisans du livre Noir Canada, dont l'auteur Alain Deneau, ainsi que d'autres invités surprises. Ça a lieu donc ce soir à 9h au Quai des Brumes. Le Quai des Brumes, c'est situé sur Saint-Denis au coin de la rue Mont-Royal. Donc, très près du métro Mont-Royal. Et c'est le prix d'entrée est de 12 $ et bien sûr, les bénéfices vont à Éco-Société pour les permettre justement de continuer leur défense devant la poursuite entamée par Barry Gold, également par Banro Corporation. Pour vous donner envie d'aller à cette soirée au Quai des Brumes ce soir, on vous diffuse un extrait d'une intervention qui a été faite par Alain Deneau lors de la deuxième soirée. Donc, l'année passée, le 22 avril, c'était à l'Alizé cette fois. Pour célébrer le deuxième anniversaire de l'apparition de Noir Canada, Alain Deneau avait composé un texte qui s'appelle « L'économie de la haine » et qui est un texte non seulement politique, mais très poétique également.
Point de haine là où on nous fait aimer l'argent à tout prix. Point de haine de l'économie, mais une économie de la haine. Le programme « Faire l'économie de la haine ». Haïr sans qu'il n'y paraisse. Ainsi s'investit-on dans l'asservissement à l'argent. Les méthodes furent jadis rudimentaires pour dissimuler à la conscience le fait de haine qui motivait la prédation économique. Les soldats grecs réduisaient leurs victimes à l'esclavagisme et se contentaient de proclamer leur naturelle supériorité. Puis, le dieu monothéiste vint. Puisque c'est lui qui situe l'or non pas à Manhattan ou à Paris, mais dans les montagnes d'Amérique latine ou les sites agricoles d'Afrique, aussi bien accompagner l'obscure raison de cet état de fait, d'obscurs desseins de pillage entretenus là où le dollar cite Dieu. Mais voilà que l'économie de la haine jamais n'a pu aussi purement se faire qu'à la faveur de l'argent, de la psychose numérique et de l'acharnement comptable. C'était en froid rationaliste que Malthus, l'économiste, préconisait la mort littérale des pauvres pour régler le problème de la pauvreté. Il s'agissait d'y penser, éradiquer les pauvres, mais de surcroît parlait-on de ce fait d'éradiquer la vie. Explicitement, définir la richesse comme n'étant plus de l'ordre de savoir penser, de savoir aimer, de savoir danser et de se savoir heureusement saisi dans un tout de l'entre-gens, non, dira ce scientifique borné et soutenu par la postérité, doit être considéré richesse uniquement la production sujette au calcul, au nombre et donc à la mesquinerie de la répartition chiffrée. Car, se demandait ce calculateur, si, plutôt que de produire au profit de ceux qui comptent, on se savait riche de ce que l'on est sujet pensant, dansant, aimant, nous risquerions de nous satisfaire de ce que nous devenons, tandis que les données comptables, elles, seraient éventuellement à la baisse, la matérialité productive moindre, l'économétrie défaillante. Il fallait donc mettre au pas le réel et ses histoires pour assujettir nos pulsions aux réalités comptables de la névrose savante. Compter. Ce verbe de la narration sensible, compter, C-O-N-T-E-R, pour énumérer les termes d'un récit. En premièrement, il advint ceci, deuxièmement, survint cela, et troisièmement, il s'ensuivit autre chose. Compter, la vie, fut reléguée progressivement à une activité marginale au profit de compter, C-O-M-P-T-E-R. Non plus compter la vie, mais vivre de ses comptes, faire ses comptes, compter intransitivement, sans que le réel, lui, dans l'affaire, ne compte. Que des colonnes comptables qui poussent comme des gratte-ciel dans une énumération toujours plus effréné de rien, prenant toute la place dans des journaux qui saturent de sens l'espace du public. Et tandis que les uns comptent leur mort là où on leur a pillé pétrole, bois et nourriture, quand on n'a pas emporté avec soi les hommes vaillants et les femmes infortunées, les autres comptent éthérés des résultats financiers censés ne signifier rien d'autre qu'eux-mêmes. L'économie se déploie donc au détriment de la vie. Mais par l'économie haït-on la vie? Pas encore. La rationalité fait l'économie de la haine. Le déshonneur et le dégoût de soi que l'on éprouverait envers soi-même si l'on devait soi-même piller, violer, tuer, congédier et expulser loin des terres natales. Ce déshonneur et ce dégoût, notre culture comptable permet d'en faire l'économie sans nous priver de son efficace résultat. Cette jouissance noire, dissimulée dans les exclusions exclusif rapport comptable n'a plus de forme déclarée. Spolier des populations, oui. Soutenir des dictatures, oui. Armer des chefs de guerre, oui. Mais ne jamais inscrire cette activité dans la catégorie de la haine. Mener des actes de haine sans assumer le sentiment lui-même. Ne pas éprouver de jouissance mêlée de honte en écrabouillant un peuple. Ne pas éprouver de frisson en ordonnant soi-même une livraison d'armes. Ne pas afficher de sourire sardonique en privant une population de ses arbres, de ses sols, de ses poissons, de ses droits, de son honneur. Considérer moins les colonnes de chars que les colonnes de chiffres. En tout temps faire l'économie de la haine, rester scientifique. La concurrence, la croissance, la gouvernance, la transparence remplacent la décadence. Sous les données, sous les calculs et sous la spéculation, oui, des crimes, du sang, du vol et des morts, mais assourdis par ce savoir économique et ses prérogatives légales. Sinon, oui, certes, aussi, peut-être, s'y prêter à cette économie de la haine, mais en creux, mais sourdement, secrètement, comme l'émotion de l'âme correspondant à un fond qui circule sous le secret bancaire. Éprouver de la haine, certes, peut-être, oui, mais étouffé dans la lourdeur d'un bilan financier, sous le satinage lisse des rapports annuels, dans le creux du rictus qui accompagne un prix de gala, dans le déni journalistique de la spoliation quotidienne. Ne pas haïr pour vrai, mais dans le faux dans lequel on télédiffuse le réel, dans le carnaval surmené où les institutions s'abîment, dans les fétiches chiffrés où se pervertissent les valeurs. Et vous, là-dedans, où en êtes-vous aujourd'hui, M. Tremblay de la rue Panet? Et vous, M. Cloutier, qui travaillez à la construction à Saint-Jérôme? Et vous, Mme Lemay de Saint-Hyacinthe? Et les braves travailleurs de la Vequeuse et ceux de la Davy Ship et les gars de Murdochville? Et vous, M. Lachance, Mme Idrissi, M. Moukaté de la rue Sainte-Marguerite? Il y a 40 ans que là-dessus parole ne vous a été adressée. Aujourd'hui, maintenant, comment vous manifestez-vous? Le peu qu'on vous donne, à peine l'avez-vous touché que déjà vous le confiez à celui qui vous promet des miettes. Tu déposes à ton tour, comme tout le monde, respectivement et machinalement, ton bas de laine au pied de celui que tu juges grand alors que tu fais sa grandeur. Il te promettra des avantages, une retraite dorée en plastique et des lignes de fuite accompagnées de néons. Puis il s'assure que s'il te vient d'aller voir, au-delà des informations sur les plans de carrière des grands qui te divertissent politiquement, il y a la consommation, l'habitation, le monde, la mode et le sport, il stationne là ton esprit. C'est que la place publique n'appartient plus à personne. Une horde de chroniqueurs t'y attendent, des rodomons dont les groupes de presse ont appris à exploiter les troubles de personnalité narcissique. Tous plus libres penseurs les uns que les autres, ces francs-tireurs, grandes gueules ou autres figures s'inspirant du registre animal ou militaire, se nourrissent aux mangeoires de la concentration médiatique. Ils posent en omniscient parce qu'ils sont omniprésents. Leurs intuitions du jour tiennent lieu de méthode.
Pour écouter la suite de cette présentation d'Alain Deneau, on vous recommande d'aller sur le site d'Éco-Société, slap.ecosociété.org. Vous y retrouverez toute l'information et le vidéo complet de cette présentation.
Ou encore d'aller au Quai des Brumes ce soir et de parler directement avec Alain Deneau.
Effectivement. Alors, rapidement, puisqu'il nous reste à peine quelques minutes, les événements à ne pas manquer cette semaine, c'est l'anti-hebdo, mercredi soir, construire des solidarités entre l'Afrique du Sud et la Palestine dans le cadre de la tournée de solidarité des syndicats du Québec et du Canada. Ça va être demain soir à 19h au Centre Saint-Pierre, salle 200, au 1212 rue Panet, métro Baudry, avec différents représentants syndicaux. Vous pouvez avoir plus d'informations sur tadamon.ca. Qui, entre autres, fait partie des organisateurs de cette soirée. Jeudi, le 2 juin, manifestation en appui aux prisonniers politiques Mapuche. Ça va être entre 4h et 7h. Ça va être devant le Journal de Montréal, au 4545 Frontenac, donc à hauteur de Mont-Royal. Donc, c'est une manifestation qui a lieu demain. On vous rappelle... On vous rappelle également la manifestation de samedi 4 juin, donc pour un turco moins rétro. Alors ça va être à 15h au métro Laurier, sortie Saint-Joseph au coin Guildford. Pour plus d'informations, www.mobilisation-turco avec un t.info. Également lundi le 6 juin, lancement du journal du projet Accompagnement Solidarité Colombie, Profit canadien et violence politique en Colombie. Ça va être au bar spectacle L'Absinthe au 1738 Saint-Denis et ça va être dans le cadre des rencontres ateliers du réseau Abia Yala, un réseau anti-minier. Ça va aussi être l'occasion d'un panel de discussion sur la thématique profit canadien et violence politique en Colombie avec des échanges et des discussions ciblant les profiteurs canadiens de la guerre. Maud, est-ce que tu veux nous dire quelques mots en 20 secondes?
Oui, ben, si vous voulez plus d'informations sur cette soirée, vous pouvez aller voir le site du projet Accompagnement Solidarité Colombie à www.pasque.ca, pasque, P-A-S-C.ca. Et également, tu as terminé avec tes annonces d'événements, oui. Également, vous pouvez suivre nos émissions sur notre site en bas à gauche.wordpress.com. On va prendre relâche durant l'été, donc ça va être principalement des entrevues et des émissions pré-enregistrées, mais vous pouvez également écouter le reste de nos émissions sur le blog et sinon, on vous revient en septembre prochain avec encore l'équipe d'en bas à gauche sur Radio Centre-Ville 102.3 FM.